En ce 26 septembre, il sera question du docteur Zacharias. Ne vous enfuyez pas, il est peu connu, mais c'est un homme vraiment remarquable qui s'est converti de la franc-maçonnerie à l'Église catholique en passant par bien des cheminements étonnants, comme beaucoup de gens le font aujourd'hui. Il est né en 1873 et il est mort en 1953. Il est devenu un ami assez intime de Joseph Folliet. Le grand Joseph Folliet, ce grand sociologue français qui venait souvent ici et que j'ai eu la chance de connaître et qui est devenu prêtre à la fin de ses jours. Et il a écrit une brève vie de ce docteur Zacharias. Parce que vraiment, c'est quelque chose qu'il ne faut pas manquer. Et puis Joseph Folliet n'est pas n'importe qui, c'est lui l'auteur de ce texte, un docteur en philosophie thomiste de l'Université de Paris, docteur en sciences sociales et politiques et professeur de sociologie dans différentes universités. Il était docteur honoris causa de l'Université de Montréal, je le signale, ainsi que de Columbia aux États-Unis. Et il a énormément écrit, et cette petite vie est fascinante. Il raconte d'ailleurs que c'est un peu comme s'il avait raconté la vie de l'homme le plus extraordinaire que j'ai rencontré. Vous savez, il y avait une sélection qui publiait ce genre d'articles. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Et dans cette série de l'homme le plus extraordinaire que j'ai rencontré, on a pu lire des affaires fantastiques, mais celui-ci est encore plus fantastique. Il aurait bien aimé, lui, consacrer tout un livre à son vieil ami, le docteur Zacharias. Les initiales, c'est H.C.E. On l'appelait comme ça, H.C.E., comme on dit G.P., etc. Donc, il est mort en 1953 à Techny, dans la banlieue de Chicago, mais il n'était pas américain. Son destin sans doute été complètement hors série. C'est un destin exemplaire. D'ailleurs, Zacharias a déjà publié un petit ouvrage qu'il appelle « Dominus Illuminatium Mea ». Seigneur, ma lumière, celui qui m'a éclairé. C'est le « The Story of a Conversion », c'est l'histoire de sa conversion, qui parut en 1926 et 1936. Il faut dire aussi que ce Zacharias a publié bien d'autres choses, sur l'Inde en particulier, sur l'histoire ancienne, la proto-histoire, comme on dit. C'est « An explicative account of the development of human thought ». C'est une espèce d'explication du développement de la pensée humaine de l'époque paléolithique, jusqu'à la monarchie perse. Vous voyez le genre, c'était un savant. Je vous fais grâce des autres ouvrages, dont l'un sur la démocratie dans l'ancienne Grèce, et puis même sur la Chine, etc. Et alors donc, il écrit dans son livre sur sa conversion le luthéranisme allemand, dans lequel j'avais été officiellement élevé. C'est détaché de moi. Comme un revêtement extérieur, vous savez, comme les serpents qui laissent tomber leur peau, c'est très étrange. Comme un revêtement extérieur, au moment où j'entrais dans la vie universitaire, ça arrive souvent, et les jeunes, à cet âge-là, à 18-20 ans, quittent tout. Et pendant les 18 années qui suivirent, je devins successivement athée, agnostique, déiste, franc-maçon, occultiste. Imaginez, il a fait du chemin, Longue évolution attristée et retardée par une vie pécheresse. Évolution néanmoins, celle d'un œil presque atrophié, qui recouvre graduellement son aptitude à la vue, capable, enfin, de distinguer quelques reflets de lumière. Alors, le terme de son évolution, c'est un catholicisme bénédictin, oui, d'inspiration bénédictine. Un catholicisme, dit-il, thomiste, et missionnaire. Zacharias, qui a beaucoup écrit, n'a jamais pris le temps de rédiger ses mémoires, comme Joseph Folliet, d'ailleurs, le lui a souvent demandé. Des vraies mémoires. Dans l'intimité, il parlait facilement avec humour de ses souvenirs. Il a trop le goût de l'idée, des idées, pour juger ses petites histoires particulières, susceptibles d'intérêt général. Alors, c'est comme ça qui n'a écrit que cette petite laquette qui inspire cette vie aujourd'hui que j'essaie de vous résumer. C'est de l'apologétique, autant et même plus que de l'autobiographie qu'il a fait. Alors, on peut dire que la vie de Zacharias n'est pas facile à raconter. C'est tellement mouvementé. Il est, en tout cas, sachons-le, un prototype du laïcat catholique consacré. Il est né en 1873, comme je vous ai dit tout à l'heure, et en 1930, à la Semaine sociale de Marseille. Il se tenait des semaines sociales catholiques dans ce temps-là. Il y avait un rassemblement annuel, donc des catholiques sociaux de France, qui avait pour thème le problème social dans les colonies, sujet qui, pour des raisons diverses, l'intéressait, le docteur Zacharias, parce qu'il avait vécu en Malaisie et ailleurs. Alors, Zacharias avait publié des articles dans la revue La Jeune République de Marc Sangnier. Vous savez, Marc Sangnier, on en a entendu parler longtemps par M. Guillemin à la télévision. Et je vais vous parler un jour de ce grand chrétien qui était Marc Sangnier. Il avait publié aussi dans le bulletin des missions, c'est la revue de l'abbaye bénédictine de Bruges. La bénédictine de Bruges, je vous en ai parlé aussi quand je vous ai fait cette belle émission où les gens avaient tellement aimé ça, sur Don Lou Tsentiang, qui a été abbé de cette abbaye et qui avait été, avant ça, premier ministre de Chine et qui s'était converti. Vous savez, ça avait été une émission du tonnerre. Ça. Alors donc, à cette semaine sociale, il rencontre Joseph Folliet, puis ils sympathisent tous les deux immédiatement, et la sympathie se transforme vraiment en amitié tenace, incapable de résister à tous les éloignements. Joseph Folliet raconte, il dit, lorsque nous nous sommes revus, en novembre 1952, dans l'Illinois, à Techné, où il est mort, notre Zacharias, et par où j'avais pu détourner mon chemin de Vancouver à Montréal. Il était parti, Joseph Folliet, de Vancouver pour se rendre à Montréal, où il venait souvent, il était arrêté dans l'Illinois, donc. Puis il disait, bien que nous ne nous fussions point rencontrés depuis 1936, nous sommes tels que nous nous étions laissés dans un petit restaurant parisien. Nous nous sommes retrouvés de cette façon-là, en fêtant son départ pour la Chine. Zacharias partait pour la Chine encore. J'étais émerveillé par la jeunesse de son intelligence, toujours à l'affût et au guet, toujours apte à des accueils et des refus également raisonnés. Et nous nous sommes quittés un jour d'arrière-automne froid, sec et venteux, où le soleil pâle éclairait des arbres givrés et des routes glacées, en pressentant l'un et l'autre que nous ne devions plus nous revoir. Et nous disions merci à Dieu pour ce dernier carrefour sous le soleil du monde. Joseph Folliet a toujours été très poétique. Alors, Zacharias est né en Allemagne. Et il a adressé à l'Allemagne, finalement, un adieu vraiment délibéré. Il venait d'une famille fortunée cosmopolite, un père hongrois d'origine juive, ce qui lui faisait quitter l'Allemagne, évidemment. Mais son père hongrois d'origine juive était passé au protestantisme et finalement était devenu un croyant. Et sa mère, qui était polonaise, était de tradition catholique. Elle avait conservé sa foi. Et l'influence paternelle prédominait dans la famille. Alors, le petit Zacharias a grandi au sein de ce qu'il appelle le latitudinarisme, c'est très compliqué, luthérien, c'est-à-dire l'espèce de laisser-aller un peu de certains luthériens allemands, pratiquement sans autre religion qu'une espèce de vernis mondain, quoi. Comme c'était la mode dans les milieux éclairés, disait-on, de l'Allemagne de cette époque. Il semble toutefois que sa mère a regretté cette éducation peu religieuse. Elle a essayé de tempérer ça, comme elle a pu, indirectement, par son affection puis sa tendresse, celle qui était catholique. Alors le jeune Zacharias a confié qu'après sa conversion plus tard, il s'est senti rapproché de sa mère, depuis longtemps morte, au point d'éprouver l'impression qu'elle lui était spirituellement présente et qu'elle s'était occupée de lui tout au long de ses recherches. Un sentiment remarquable chez un homme habité par la raison, c'était un homme de raison, et qui pêchait pas par sensiblerie, et qui craignait rien comme l'illuminisme. Alors il a connu l'enfance et la jeunesse européenne de l'intelligentsia riche d'avant la guerre de 1914. Il a fait des voyages de capitale en capitale, de palace en palace. Passait ses hivers sur la Côte d'Azur. Mais il y avait là une initiation pour lui qui était cosmopolite, et qui s'est révélée plus tard très précieuse pour quelqu'un qui finalement est devenu un citoyen du monde. Cet homme, Zacharias, parlait et écrivait couramment l'allemand, l'anglais et le français, impeccablement. Il a étudié en Asie, en plus de ça, les dialectes malais, puisqu'il a vécu en Malaisie un bon bout de temps, et certains dialectes indiens. Il a appris aussi le chinois. C'est quelque chose, hein? Et ces connaissances-là se greffaient sur des humanités gréco-latines solides, comme on les recevait à l'époque, hein, dans l'époque des grands collèges. On les faisait comme ça, d'ailleurs, dans les gymnases allemands. C'était les collèges classiques de cette époque, on les appelait des gymnases. On pratiquait beaucoup aussi la culture physique. À la fin de son adolescence, il n'a plus d'inquiétude religieuse. Le peu de pratique luthérienne qu'il conserve tombe dès son inscription à l'université. Puis il est d'abord matérialiste, puis ensuite positiviste, avec une certitude tranquille. Il s'inquiète plus de rien. Il subit l'influence du biologiste Haeckel, un athée célèbre en Allemagne, dont je vous ai déjà parlé un peu, célèbre en Allemagne et aussi en Angleterre. Selon Haeckel, Dieu n'est qu'un vertébré gazeux. Quel effroyable blasphème, hein? Alors, c'est peut-être cette influence qui l'oriente vers les études biologiques, et son tempérament intellectuel ne l'attire ni vers le commerce ni vers l'industrie, et son esprit positif le détourne des lettres ou de la philosophie pure que j'ai étudiée avec grand joie, et qu'il ne découvre que dans sa maturité par saint Thomas d'Aquin, que j'ai beaucoup aimé aussi. Il obtient pourtant le titre de docteur en philosophie, mais avec une thèse d'orientation plutôt évolutionniste et transformiste, dont l'argument principal de sa thèse repose sur la disposition des écailles chez un type de serpent boa. Imaginez, un docteur en philosophie qui s'obtient par des thèses pareilles, mais c'est comme ça dans ces universités-là, hein. Et comme il montre déjà une tournure d'intelligence originale et assez rétive, assez révolutionnaire, il a du mal à trouver, de l'autre côté du Rhin, une université qui accepte sa thèse. Alors il la soutient finalement dans une toute petite alma mater, comme on dit, une toute petite université qui le reçoit. Il devient docteur, et après son doctorat, il n'arrive pas à se fixer. Il n'a pas un besoin immédiat de gagner sa vie. Puis l'enseignement allemand le rebute. D'ailleurs, l'Allemagne de cette époque, avec sa richesse, sa discipline également lourde, puis avec son excès de sérieux et ses profondeurs doctorales, ça répugne à son esprit critique. Il se sent de plus en plus attiré par l'Angleterre et par le caractère anglo-saxon qui convient à son amour de la liberté individuelle puis de la démocratie disciplinée. L'Angleterre de cette époque. Et c'est à son sens, cette discipline qui est remplie d'humour, c'est quelque chose de merveilleux. C'est ce que j'ai goûté moi-même en Angleterre en 1949. Il raconte comment le spectacle d'un boy, un garçon faisant le pied de nez à un policeman, geste inconcevable dans l'Allemagne fin de siècle, y avait produit un effet d'une libération intérieure. Ça rappelle Michel Chartrand qui fait le pied de nez quasiment au premier ministre Trudeau. On a vu ça à la télévision. Hein? Alors il finit par solliciter sa nationalisation britannique et il l'obtient. Il lui arrive souvent d'entrer en lutte avec l'autre Angleterre, l'Angleterre officielle, pas l'Angleterre sympathique. Là. Mais il reste fidèle à son pays d'élection, à cette Angleterre qu'il aime. Et dans sa cellule de Techny dans l'Illinois aux États-Unis à la fin de sa vie, il y a toujours, chose étrange, le portrait de la jeune, toute jeune reine Élisabeth à l'époque, qui figure à la place d'honneur, est resté très anglais. Les jugements qu'il porte sur les Américains, d'ailleurs, sont ceux des Anglais. Il parle comme Charles Dickens et tous les autres Anglais jusqu'à Evelyn Waugh. Evelyn Waugh, le fameux écrivain converti au catholicisme. C'est intéressant de lire Evelyn Waugh. Pour lui, l'Angleterre est le pays du réalisme, du common sense, comme disent les Anglais, du civisme démocratique, c'est ce que j'avais vu en 49, le civisme extraordinaire, du socialisme raisonnable aussi, partage des richesses, mais raisonnable, c'est ce qu'il considérait, lui. De la liberté aussi, puis de l'humour. C'est vrai qu'il y a une liberté que l'on n'a pas dans la plupart des autres pays d'Europe, en Angleterre. Et l'Angleterre devient donc la patrie de son cœur, où s'est enraciné volontairement, et dont il adopte la langue comme le véhicule ordinaire de sa pensée, et c'est pour ça que ses écrits passeront de l'allemand à l'anglais. Cette prédestination anglaise, ça l'empêche pas d'aimer la France, qu'il connaît bien, il parle notre langue. Et il aime aussi le catholicisme français, avec lequel il se sent des affinités. Il y avait un renouveau dans l'Église de France. Il y a chez lui cette disposition native des Anglais, dont l'intelligence est claire et tempérée, il faut bien leur donner ça. Et il se tourne vers la France, comme les Anglais, plus que vers les espèces d'excitations méditerranéennes ou bien les profondeurs germaniques. En Angleterre, il prend une des résolutions capitales de son existence, c'est celle de s'affilier à la franc-maçonnerie. C'est étrange. Mais cette étape va le mener à sa conversion, ce qui prouve que Dieu attire les âmes par les moyens les plus imprévus. Il ne faut jamais désespérer des cheminements de nos enfants ou des gens que l'on aime. D'ailleurs, est-ce qu'on ne dit pas que tous les chemins loyaux mènent à Rome? C'est une vieille, on dit toujours, hein, tous les chemins mènent à Rome. Alors pourquoi Zacharias se fait-il franc-maçon? Mais peut-être à l'origine par l'effet d'une simple mondanité. Dans l'Angleterre victorienne, on est à l'époque de la reine Victoria, bien la franc-maçonnerie forme une sorte de club sélect, dont à l'époque le prince de Galles, le futur Édouard VII, vous savez, Édouard VII, là, il y a sa statue au Square Philippe, près de la cathédrale anglicane, là, dans le bout de la baie de Eton. Alors, le prince de Galles est une des éminences de ce club que forme la franc-maçonnerie. Zacharias raconte que les frères, comme on les appelle, les francs-maçons, se réunissent chaque mois pour des repas fraternels, frugales. C'est frugaux, des repas frugaux, devrais-je dire. Et puis, ça coûte seulement une guinée par bouche. On pouvait à ce prix faire, même à Londres, un repas quand même convenable. Il est vrai qu'un schelin, ou un shilling, 25 sous, était prélevé pour les pauvres. Peut-être que Zacharias cherche obscurément une église. Pour 25 sous, hein, ça, c'était de l'argent, 25 sous, dans ce temps-là. Quoi qu'il en soit, c'est par la franc-maçonnerie qu'il trouve l'église. D'abord, la croyance en Dieu qui le débarrasse de son positivisme. Puis à la différence du Grand Orient français, il faut pas oublier ça, qui se proclame athée, les francs-maçons en France disent athée. Mais la franc-maçonnerie britannique, sauf le rite écossais ancien, demeure fidèle à la foi en Dieu, au déisme de ses fondateurs protestants. En bon franc-maçon, Zacharias croit en Dieu. Et il découvre que cette croyance, loin de heurter sa raison, en satisfait les exigences profondes. À l'intérieur de la franc-maçonnerie, il suit le courant mystique et ésotérique qui prétend se rattacher à la Rose-Croix et aux traditions de l'alchimie. Rue Sherbrooke, ouest, devant le grand séminaire, près de la rue Saint-Marc, il y a justement un grand temple franc-maçon du côté sud. Grand bâtiment de pierre avec des grandes colonnes, très impressionnant. C'est le temple franc-maçon de Montréal. À cette aventure spirituelle, vient se joindre une aventure économique, parce qu'il est un peu dégoûté de la vieille Europe. Il est fatigué d'un excès de confort puis de sécurité. Bon. Alors, Zacharias va s'établir planteur en Malaisie. Étrange chose. Il travaille beaucoup. Il fait travailler ses capitaux. Il réussit même tellement qu'il devient secrétaire, imaginez, de l'Association des planteurs de Malaisie. Mais en cette qualité, il joue un rôle officiel. Il n'aime pas revenir sur cette période mondaine de sa vie. Période capitaliste, colonialiste, qui lui rappelle, d'ailleurs, une conduite personnelle plutôt pénible. Il se repent de cette conduite. Mais il a surtout honte d'avoir participé à un système d'exploitation coloniale. Et la grâce chemine en lui, à son insu. vous allez voir, est devenu haut dignitaire de la franc-maçonnerie. Oui, haut dignitaire de la franc-maçonnerie. Il doit s'initier au grade de Rose-Croix, dont le rituel comporte des formules trinitaires. Oui, il est question du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il prend ça au sérieux. Lui, c'est un déiste, donc il croit en Dieu, mais unitarien, une seule personne en Dieu, puis il a de la peine à accepter la Trinité. C'est pour lui une révélation, celle du vrai Dieu, un en trois personnes. Le Père, qui de toute éternité engendre son Fils. Qu'il aime, il s'aime, cet amour, c'est quelqu'un, c'est l'Esprit-Saint. C'est le Dieu vivant de ses aïeux chrétiens, et d'une certaine façon le Dieu vivant de ses ancêtres juifs. Il se sent chrétien, avec la loyauté et le réalisme qui le caractérisent. Il décide de faire une expérience chrétienne, et dit l'idée m'est venue graduellement et irrésistiblement, que si après tout, il y avait tant dans le christianisme, il semblait illogique de ne pas l'expérimenter avec un réel sérieux, afin de découvrir si ma vague recherche de je ne sais ou juste quoi ne pouvait peut-être trouver son terme et son accomplissement dans ce christianisme même qui avait été mien par droit de naissance, mais que j'avais dédaigneusement rejeté. Mon attitude mentale ne consistait pas du tout à professer que le christianisme fut vrai. Au contraire, je me défendais, écoutez bien ça, je me défendais contre l'accusation de m'abaisser au niveau mental du troupeau des chrétiens. Ben oui. Ça arrive souvent, ça, hein? Les gens veulent pas avoir l'air de chrétiens parce qu'ils ont peur de s'abaisser. Alors que souvent, parmi les chrétiens, il y a les plus belles âmes, les gens les plus merveilleux. Et souvent de très grands intellectuels et de grands savants, et des prix Nobel en quantité, oui. Alors Zacharias, un dimanche, se rend à l'église anglicane. Dans cette société de colonies anglaises, la Malaisie, écrit-il, dont je faisais partie intégrante, mais la pratique du christianisme semblait consister dans le fait d'aller le dimanche soir à l'église. C'est aller à ce qu'on appelle l'evensong, evensong, evening puis song. Alors, un dimanche soir, dit-il, au lieu d'aller au club, j'allais pour la grande surprise de certains à l'église anglicane, bien entendu, car l'église ne peut être anglicane dans ces régions-là. À cette soirée du dimanche, je ne trouvais pas d'inconvénient pour retourner finalement à l'église le dimanche suivant. Après tout, aller le dimanche soir à Sainte Mary, c'était une manière au moins aussi bonne de passer son temps que d'aller au club Spotted Dog, le chien taché. Spotted Dog. Alors, Zacharias ne se contente pas de cette expérience culturelle. Il joue le jeu. Il poursuit son expérience. Avec une rigueur qu'il veut scientifique. Alors, il tâche de mettre ses actes en rapport avec sa vie religieuse. Et puis, il apprend la maîtrise de soi. Prêt et empressé, écrit-il, à supprimer un par un les péchés grossiers dans lesquels j'ai vécu jusque-là. Alors on voit qu'il s'achemine petit à petit. Il se rend compte de ses péchés, de ce qui est stupide en lui finalement. Il écrit d'ailleurs à ce sujet, « Je n'avais pas d'idée de la grâce qui travaillait en moi. Je me voyais toujours en train de faire une expérience scientifique. » Le seul fait troublant et contre lequel je suis venu bientôt me heurter, c'était un péché obsédant qui m'avait tenu dans ses griffes pendant un quart de siècle et qui était si bien devenu une partie de moi-même que je ne voyais pas d'espoir de me fermer jamais à ce rayon de mort. Et avec cela, il me venait une aspiration mélancolique à m'en débarrasser. Et une compréhension presque désespérée que je n'aurais jamais la force d'y parvenir. Je dirais aujourd'hui que je me jetais dans la miséricorde du Christ. Mais naturellement, à l'époque, je ne pouvais ni le reconnaître, ni le formuler. Confusément, intuitivement, je tâtonnais. et je fis ma première communion. Et à partir de ce jour, anima mea sicut passus erept est de laqueo venantium, laqueus contritus est et ego liberatus fui. Car il prie en latin comme on priait dans ce temps-là, je l'ai fait exprès pour rappeler aux gens que c'était en latin. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire, c'est un passage d'un psaume. Mon âme, comme un passereau, s'est échappée du filet des chasseurs. Et le filet s'est brisé, et je me suis trouvé libre. Et il ajoute, et sum, et me voici. Et cette admirable confession marque la date décisive, et depuis ce moment, tout suit, par une logique, un progrès fantastique. Alors il retourne en Europe. Ensuite, Zacharias visite la Terre Sainte. Il éprouve une émotion jusqu'aux larmes, comme je le comprends, près du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Vous savez qu'il y a des gens, des grands pécheurs, qui, à genoux, près de cette pierre où le Christ a été déposé, où il est ressuscité, des gens fondent en larmes et se convertissent. Il y a une grâce spéciale qui règne là. Et à Londres, il rencontre la haute église anglicane, la High Church, pour laquelle j'ai beaucoup d'estime, et dont il devient un fidèle. Comme les cérémonies sont belles chez nos frères anglicans de la haute église anglicane. Quel respect ils ont du moindre geste qu'ils posent devant Dieu. On sent que Dieu est présent pour eux. Ils savent faire des processions en se distanciant les uns des autres et ne se marchent pas sur les talons. Ils portent des croix avec respect, si digne. Ils ont des vêtements magnifiques. La musique est belle. Leurs églises sont belles. C'est superbe. Hein? Ils visitent la fameuse abbaye anglicane de Calde. Oui, ils ont des bénédictins, les anglicans de la High Church, de la Haute Église. Et là, il prend un premier contact avec l'esprit bénédictin, qui va tenir une si grande place dans sa spiritualité, cette belle spiritualité bénédictine qui est conforme en tout point à la grande spiritualité catholique fondamentale. Il va y contracter l'habitude de réciter chaque jour l'office divin, son bréviaire. Il y fait une retraite et une confession, car il y a des confessionnaux chez la High Church, dans la haute église anglicane. Les prêtres, d'ailleurs, portent des soutanes, ils ont des sœurs en costume. Ils lisent les encycliques du pape, plus que bien d'autres chose. Ils sont très attachés à ce qu'il y a de catholique chez eux au sein de l'anglicanisme. Et à la même époque, Zacharias découvre aussi le thomisme avec émerveillement. On étudie presque plus ça aujourd'hui, la philosophie et la pensée de Saint Thomas. Il dit rien d'étonnant dans ce que je sois frappé d'étonnement. Ayant toute ma vie passée marcher à tâtons dans un brouillard intellectuel de matérialisme ou d'idéalisme, épais comme une purée de pois londonienne, purée de pois, c'est-à-dire la brume dense de Londres. Vous savez que dans les rues de Londres, parfois, la brume est si dense qu'on ne sait plus où on s'en va. Alors il continue en disant, je me trouvais soudain marchant dans un paysage ensoleillé d'une beauté exquise, palpitant de vie, irradié de lumière, la lumière, ah, la chère et glorieuse lumière. Alors du coup, la franc-maçonnerie lui paraît un vase vide. C'est Saint Thomas et Saint Benoît qui sont ses deux patrons, les deux patrons de sa vie nouvelle. La franc-maçonnerie le rebute jusqu'à la répulsion. Influencé un moment par l'occultisme et le védantisme, il a cru que la franc-maçonnerie serait le sanctuaire initiateur, mais elle l'a initié à tout autre chose qu'à ses arcanes subtils. Au christianisme le plus traditionnel, c'est à ça qu'elle l'a initié finalement, elle l'a dirigé vers ça, et du coup, la franc-maçonnerie lui révèle sa vanité, car c'est dans le christianisme qu'est la lumière. Alors toujours logique, il tire les conséquences de sa conviction, puis il démissionne de la franc-maçonnerie, non sans peine d'ailleurs, parce qu'il a beaucoup d'amis là. Ça le détermine à vivre une vie remplie de remous dans les cercles de ses frères francs-maçons. Et c'est peut-être pas étranger, à des refaire de fortune parce que la franc-maçonnerie permet de faire de l'argent parfois. Et quand on la quitte, on peut être puni jusqu'à un certain point. Mais il est de ces hommes qui n'acceptent pas de compromis avec leur conscience, et c'est le cas de Zacharias. Alors cette décision de quitter la franc-maçonnerie en raison de liens personnels, puis en raison de ce que je devais laisser derrière moi, une telle part de ma personnalité, ça lui coûte beaucoup, dit-il. Mais simplement, ajoute-t-il, je sentais que je serais insincère et infidèle à ma propre religion vivante si je ne me coupais pas de ce grotesque incube, le mot est sévère, hein, même si, à un moment donné, il avait été le moyen même qui m'avait conduit au portail de l'Église. Ainsi donc, je m'en coupais. Il se sépare de la franc-maçonnerie. Alors là, on passe de la Malaisie aux Indes. La guerre de 1914 le ruine, et d'autant qu'il n'a plus le soutien maçonnique. Alors ses origines allemandes le rendent suspect. On l'accuse d'espionnage. Il renonce au secrétariat de l'Association des planteurs, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il vend sa propriété en Malaisie. Il quitte ce pays. Il continue son aventure, une aventure qu'il n'a ni cherchée et qui est à la fois spirituelle et temporelle. La Providence le guide toujours. L'Asie l'a envoûté. Il n'envisage pas un retour en Europe, alors il passe aux Indes. Il reste anglo-catholique, comme on dit chez des anglicans de la High Church, de la Haute Église. Anglo-catholique. Ça ne veut pas dire qu'il est catholique anglais, là, catholique romain anglais. Non, non, anglo-catholique. Donc, il reste anglo-catholique, anglican, si vous préférez, fervent. Un attrait spontané vers la liturgie, un goût des rigueurs doctrinales, le préserve du protestantisme, qui existe aussi à l'intérieur de l'anglicanisme. Mais s'il ne se convertit pas à l'hindouisme, malgré son admiration pour la Vedanta, il se convertit jusqu'à un certain point à l'Inde, c'est-à-dire, il aime l'Inde, à la cause indienne aussi. Ces Indiens qui sont soumis à l'Angleterre, il embrassa de tout son cœur. Il entre dans la Société des serviteurs de l'Inde, Servants of India, fondée par son maître, son gourou, qui s'appelle Gopal Krishna Gokhale. On pourrait parler de lui un jour. L'un des plus grands et des plus purs politiques de l'Inde, un spirituel aussi, et un réaliste en même temps. Un peu comme Gandhi. Hein. Et dans son livre « La Renaissance de l'Inde », Zacharias a retracé la marche spirituelle, intellectuelle et politique de l'Inde vers son indépendance. Ce qu'il ne dit pas, c'est la part qu'il a prise dans le mouvement social et national de l'Inde régénéré. Il a été pendant 5 ans l'un des membres du fameux collège des serviteurs de l'Inde, les Servants of India, à Pune, sous la direction de Gokhale, dont je vous ai parlé. Puis il y a encore Gandhi, sur lequel il porte des jugements plus complexes et nuancés que la plupart de ses contemporains. Il s'habille, il vit à l'indienne, en brahme, ce qui lui vaut plusieurs expulsions hors d'hôtels européens parce qu'on le prenait pour un native. Imaginez, c'est comme ça qu'on traitait les Indiens de l'Inde dans les hôtels européens de l'Inde. Il aimait à compter avec humour ses grandes et ses petites mésaventures. Et l'activité temporelle ne le détourne pas de sa route spirituelle. Plus il vit à fond son anglo-catholicisme, plus il en comprend l'instabilité, puis la précarité. Parce que c'est un peu instable, la pensée anglicane. Elle est très souple. Il aimait l'Église d'Angleterre. Comme moi, je l'aime bien, d'ailleurs. J'ai prêché souvent dans des églises anglicanes. Et pour les taquiner, je leur disais, « Oh, mon Dieu, heureusement que je suis né francophone. Autrement, je pense que si j'étais anglophone et protestant, je deviendrais anglican immédiatement. » Il aimait donc l'Église d'Angleterre, sa liturgie, sa poésie, ses hymnes si belles. Vous savez, c'est beau, j'aime beaucoup chanter les hymnes anglicanes le dimanche soir à l'Evensong. Mais de plus en plus, elle lui paraissait, cette Église, une cote mal taillée entre le protestantisme et le vrai catholicisme. Et l'expérience de la communauté jacobite de la côte de Malabar, en Inde, il enseigna dans les séminaires et les monastères de cette Église particulière, à Travancore puis à Cochin. Ça lui a révélé les limites puis les faiblesses des églises orientales qui sont séparées. Mais il y a une part de ces jacobites qui sont devenus catholiques en Inde. Nous avons une église de là-bas qui s'est unie avec ses évêques en 1925 à notre grande église catholique. Et la réforme du bréviaire par Pie X à l'époque, la constitution du code de droit canonique dans les années 10, l'ont profondément impressionné. Il y a l'enseignement social aussi du pape Léon XIII, ces belles encycliques qui correspondent à ses aspirations, à ses convictions. Et le catholicisme romain lui paraît le seul christianisme vraiment universel, capable de dépasser les racines et les nationalismes qui lui font horreur. Alors les hésitations de l'Église anglicane devant le birth control, la limitation des naissances, lui déplaisent. Parce que dans cette Église, on accepte assez facilement toutes ces choses-là. Comme dans l'Église unie ici, qui est la grande Église protestante du Canada, on accepte l'avortement. C'est très étrange. On ordonne même des pasteurs homosexuels avec leurs amants. Très étrange. Mais néanmoins, Zacharias hésite longtemps. Non sans trouble ni peine au bord du catholicisme. Il lui en coûte de rompre avec ses amis anglicans. Comme naguère, il a rompu avec les francs-maçons. Puis il y a le dogme de l'infaillibilité pontificale. Ça lui fait l'effet d'un obstacle insurmontable. Mais d'un détail curieux, par exemple. C'est le jour où il se convainc, après une étude profonde, que par le dogme de l'Immaculée Conception, qui a été promulgué au siècle dernier, en 1854, Pie IX avait eu raison contre son philosophe et théologien préféré, saint Thomas d'Aquin, qu'il regarda l'infaillibilité pontificale sous une lumière nouvelle. Il va y voir la garantie de la philosophie pérenniste de saint Thomas et celle de la véritable liberté de penser. Le contrôle de la pensée par l'infaillibilité pontificale, dit-il, n'abêtit pas la pensée. Mais bien plutôt, ce contrôle préserve la pensée de s'abêtir elle-même. Il en arrive là. Il écrit ça, dans cette formule qui ressemble beaucoup à du Chesterton. Alors le dernier obstacle tombe. Et là, en 1926, oh, c'est l'année de ma naissance, en 1926, Zacharias est reçu dans l'Église catholique aux Indes. Il a 53 ans. Quel long cheminement, hein? Et sa maturité consacre l'aboutissement d'une longue maturation spirituelle que l'on verra fleurir. Le docteur Zacharias, docteur en philosophie, se convertit au catholicisme. Il écrit « Ainsi ma longue recherche finissait-elle où Dieu et son Christ voulaient qu'elle finisse. À la porte de miséricorde du samedi saint, il s'est fait baptiser le samedi saint, selon la vieille et ancienne tradition de l'Église primitive. Lentement, péniblement, avec hésitation, dit-il, j'avais suivi la lumière d'aussi loin que je l'avais vue, à chaque moment de ma longue errance. Et maintenant, celui qui est lumière de lumière et la lumière du monde entier, sans en accepter les athées, les païens, les hérétiques et les schismatiques dont je fus moi-même à un moment ou l'autre, est venu à moi pour m'illuminer par l'éclat de son propre feu pascal, pour m'enflammer par la plénitude de son propre amour divin surpassant tout amour, et pour imprégner tout mon être de reconnaissance pour cet ineffable amour par lequel il m'a aimé, moi, même moi, avant la création du monde. Alors ce pèlerin, le docteur Zacharias, a trouvé le repos. Il en profite pour se remettre à l'ouvrage. Et aux catholiques indiens, il fait un curieux don de joyeux avènement, un hebdomadaire. Il entreprend la publication de The Week, le premier journal politique indien d'inspiration catholique. Il continue pour la libération de la mère Inde, comme il l'appelle, et l'émancipation des parias, les intouchables. La lutte qu'il a menée derrière Gokhale, son gourou dont je parlais tout à l'heure, aux côtés de Gandhi et de Nehru. Il combat si fort que sa situation devient intenable dans la répression qui suit la guerre de 1914. En 1928 ou 1929, il doit donc quitter l'Inde pour n'y plus jamais revenir. Il doit même quitter l'Asie. Il trouve refuge en Belgique à l'abbaye bénédictine de Saint-André de Bruges. À Bruges, Zacharias achève de réaliser son équilibre spirituel. Dans cette paix de Saint-Benoît, qui semble faite à souhait pour son tempérament, Il y rencontre un grand religieux dont l'expérience se rapproche de la sienne, dont Célestin Lu Zhenxiang, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cette émission, je l'ai faite le 15 janvier dernier. La cassette est disponible. C'est une émission qui a eu un succès énorme. Donc, il rencontre Don Célestin Lu Zhenxiang, cet ancien ministre de la République chinoise, qui devient son ami. Avec Don Lu Zhenxiang, avec le père Leb, dont je vous parlerai bien un jour, avec le père Pierre Charles, dont je vous parlerai aussi un jour, s'il y a des gens qui ont des textes sur eux, qu'ils me les expédient à Radio Ville-Marie, ça m'aidera. Alors, il était l'un des penseurs du renouveau missionnaire. Ben oui. Il était écrit que cette espèce de juif errant, qui est le docteur Zacharias, il avait du sang juif, ne pourrait s'arrêter nulle part. L'audacieux franc-parler du bulletin des missions auquel il collabore suscite des oppositions un peu partout, et en Belgique même, Zacharias doit quitter la Belgique. Là, c'est la France qui l'accueille, à Lille, tout près de la Belgique, où dans la jeunesse étudiante, en marge de l'Université catholique de Lille, bien fermente alors des aspirations sociales et missionnaires. Et en ce sens, s'ébauche un mouvement de laïcat missionnaire qui est destiné à une belle expansion sous le nom d'Ad Lucem. On parlait beaucoup d'Ad Lucem autrefois. Ah oui. Et Zacharias en est un des fondateurs d'Ad Lucem. Quand s'ouvre à Lille, proche de l'Université catholique, la Cato, une maison de formation pour les jeunes d'Ad Lucem, il en devient tout naturellement l'un des animateurs et le maître le plus écouté. Sa jeunesse d'âme, en dépit de la soixantaine, son humeur joviale, sa bonhomie, sa dignité toute simple, et aussi son expérience universelle, puis son humour, le désigne à la confiance des jeunes Européens, des jeunes Africains, puis des jeunes Asiatiques, qui voient en lui un précurseur puis un conseiller. Il l'appelle gentiment « grand-père ». En même temps, il collabore à des revues françaises, à La Vie intellectuelle des Pères dominicains. Connaissez-vous cette belle revue, La Vie intellectuelle? Ah, dans les bibliothèques sérieuses, là. Si, c'est très intéressant, feuilleter ça. Il collabore à au fameux hebdomadaire 7, S-E-P-T 7, puis à La Jeune République aussi, aux diverses publications de l'agence Univers, et sa collaboration est partout appréciée. Mais où il y a des hommes, il y a de l'hommerie, et la forte personnalité du docteur Zacharias attire à la fois les sympathies puis les oppositions, alors y porte ombrage à quelques-uns, ce qui rend sa position dans la ville de Lille de plus en plus délicate. Et d'autant qu'il n'y a pas de ressources personnelles, il dépend de l'hospitalité, il est pauvre. Et l'université de Paiping, en Chine, lui offre une place de professeur. Alors il reprend la route. Et de 1937 à 40, il est professeur à l'université fondée et dirigée par les pères du Verbe divin. Il poursuit des études personnelles d'ethnologie, d'archéologie et d'histoire. Il est aimé de ses étudiants, il est estimé de ses collègues. Il est pleinement heureux. Il étudie le chinois. Il vit à la chinoise. Il apprécie la cuisine chinoise. Il a bien raison, hein? Il en fait grand cas, d'ailleurs, de cette cuisine. Et ce bonheur dure peu. Il y a la guerre, l'occupation japonaise qui l'arrache à l'université. Et après un internement sur place, il est expédié aux Philippines dans un camp de concentration où il connaît les barbelés et la faim, mais par bonheur, il n'est pas maltraité. La victoire américaine le délivre. Un bref séjour aux États-Unis, il n'aime pas les États-Unis, puis il reprend son poste à Paiping, en Chine. Il y retrouve la paix, mais pas pour longtemps. Les communistes de Mao Tse-tung occupent la ville. Ils envahissent l'université, Zacharias essaie de tenir, mais quand il voit sa liberté spirituelle en danger, bien, il reprend encore la route. À plus de 70 ans, et cette fois, c'est le dernier voyage, les pères du Verbe divin lui offrent l'hospitalité dans la guest house de leur séminaire à Techny, dans la banlieue de Chicago, à l'endroit où commence la campagne. C'est une curieuse maison d'accueil, elle est bien américaine, qui tient du couvent, de l'hôtel et même du bar. Il est dénué de ressources, il est trop vieux pour retrouver un emploi, alors Zacharias doit y demeurer. Il l'a pas. Il a un certain confort, d'accord, mais il y a un isolement douloureux. Il est mal accordé, là, la mentalité américaine. Il connaît peu de monde aux États-Unis. Ses amis sont loin, dispersés dans le monde. La communauté du Verbe divin l'héberge, mais ne l'adopte pas. Est-ce qu'il va s'abandonner à se dire vieux? Ce serait mal de connaître. Il vit comme dans un cloître bénédictin. Il récite chaque jour son bréviaire. Il collabore à quelques revues américaines. Il profite de ses acquisitions en ethnologie, en préhistoire. Puis il publie à Saint-Louis, chez Herder, deux ouvrages, Proto-History puis Human Personality, deux gros livres savants, pleins de faits peu connus et de réflexions originales. Il n'est pas exagéré de prétendre qu'il renouvelle certaines perspectives historiques. Mais le silence les accueille. Parmi les officiels, qui connaît ce vieux franc-tireur de la préhistoire? L'originalité même de ses conclusions. Mais ça déconcerte beaucoup de lecteurs aux États-Unis en particulier. Alors, il voudrait une traduction française, mais c'est refusé. Il semble que Dieu veuille que Zacharias meure dans l'humilité et dans la pauvreté. Ce vieux riche d'autrefois ne laisse pas de quoi payer son enterrement, et ses derniers amis se cotisent pour ses funérailles. Du moins, Dieu épargne la solitude de ses derniers jours. Il met sur son chemin des laïcs missionnaires comme lui, des jeunes filles belges et françaises, la Société des auxiliaires des missions qui tiennent à Chicago, Crossroads, un foyer international d'étudiantes. Puis un jeune prêtre aussi, un jeune belge, la fameuse abbé Outard, quel homme merveilleux. Et Zacharias peut donc mourir en paix entouré de jeunes qu'il comprenne et l'admire. Le cardinal chinois, Thomas Tien, réfugié lui aussi à Tekné, a suivi son convoi funéraire avec les auxiliaires des missions, avec l'abbé Outard, avec les pères du Verbe divin. Il y a eu des remerciements de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique à celui qui a tant fait pour que tous ces pays se rencontrent dans la vérité. Et telle est la vie de ce vieux Zac, old Zac, comme il aimait à s'appeler lui-même, cet éternel voyageur, ce pèlerin de la vérité et de la charité, ce juif errant du Christ, du vieux Zac qui avait tout vu, tout expérimenté, qui savait tout, mais qui, revenu de si loin et de tant de choses, gardait un cœur neuf et pur d'adolescent, qui, cherchant Dieu par tant de routes, l'avait trouvé malgré tant d'obstacles, et qui, n'ayant, comme le cardinal Newman, jamais péché contre la lumière, en avait été récompensé par la trouvaille du Christ. Alors du vieux Zac, catholique parce qu'il l'avait voulu, pleinement fidèle à l'Église, dans la farouche et grande indépendance de sa pensée, laïque 100% et quand même bénédictin, thomiste et même, en même temps, non-conformiste, savant et humoriste, catholique social par nature, démocrate né, capable de traiter en égal et en ami n'importe quel homme de toute classe, de toute race et de toute nation, excepté les raseurs, les snobs et les prigs, comme il disait. Alors du vieux Zac, qui avait emprunté la moitié de sa devise « Pax » à Saint-Benoît et l'autre moitié « Veritas » à Saint-Dominique, fier et humble, malicieux et charitable, sympathique. Ah, tout se réunissait chez lui, l'humour, la foi, la charité. Du vieux Zac, qui a servi tour à tour l'Angleterre, l'Inde et la Chine, l'Europe et l'Asie, l'Amérique, mais d'abord et toujours, on peut se souvenir de lui comme un serviteur de la lumière.